VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manilakiza à la présentation de cette édition du jeudi 20 mai 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Mali, 16 morts dans la région de Gao, une voiture a sauté hier sur une mine. Au Burkina Faso, le président Kaboré appelle les élèves au calme suite aux violentes manifestations.
Il n'est pas normal que pour une réforme qui sera engagée déjà en 2022, nous soyons aujourd'hui en train d'arriver à des extrémismes de ce genre.
Antonio Guterres juge inacceptable la poursuite des tirs israéliens et palestiniens. La Russie salue des signaux positifs dans ses relations avec les États-Unis. Joe Biden et Vladimir Poutine envisagent un tête-à-tête le mois prochain. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Un véhicule de forains qui se rendait hier à Ntilit, dans le Gourma de Gao, a heurté un engin explosif improvisé. Le bilan fait état de 16 morts et des blessés ont été admis à l'hôpital régional de Gao. Sur place, la correspondance de Boubacar Touré.
C'est un véhicule de forains qui se rendait hier mercredi 19 mai 2021 dans la commune de Ntilit pour la foire de ce jeudi matin. Arrivé vers Tidjalalen, un village situé à quelques kilomètres seulement de leur destination, le véhicule avec plus de 20 passagers à bord heurte un engin explosif improvisé. Le bilan fait état de 16 morts, dont une femme et ses deux enfants âgés de 5 à 2 ans. 6 blessés admis à l'hôpital régional de Gao et 2 portés disparus. Les victimes sont des ressortissants de Ntilit et de la commune rurale Tsoni Alibert. Il faut rappeler que la commune de Ntilit se situe dans le Gourma sur la route de Sévaré. C'est dans cette commune qu'on a découvert le site d'orpéage à Antahaka qui fait la convoitise de centaines de personnes par jour à la recherche de ce métal précieux. Malheureusement, cette zone échappe encore au contrôle de l'État malien qui laisse les mains libres aux groupes armés terroristes. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Le chef du groupe djihadiste Boko Haram, Aboubakar Shekau, serait grièvement blessé pour éviter d'être capturé par des djihadistes rivaux du groupe État islamique dans le nord-est du Nigeria. Selon de sources proches des services de renseignement, Aboubakar Shekau et plusieurs de ses hommes ont été encerclés mercredi dans leur bastion dans la forêt de Sambisa, mais ils auraient réussi à s'échapper. Ces informations n'ont pas encore été confirmées. Washington condamne la nomination de l'ancien chef de guerre libérien Prince Johnson à un important poste parlementaire. Il occupe la présidence de la commission de défense du Sénat libérien, Abdulrahman Dia.
L'élection hier de Prince Johnson à cet éminent poste a suscité l'ire des États-Unis, pays au lien fort avec le Libéria. Dans un communiqué, l'ambassade des États-Unis à Monrovia déclare que les violations grossières des droits humains commises par le sénateur Johnson pendant les guerres civiles font l'objet d'une documentation abondante. Les efforts qu'il a déployés pour ne pas avoir à rendre des comptes, remplir ses propres caisses et semer la division sont aussi bien connus. Selon la diplomatie américaine, le fait que le Sénat libérien juge bon de le promouvoir à un poste de responsabilité, a fortiori dans un domaine où il a causé le plus de mal à son pays, sème le doute sur le sérieux du Sénat et sur sa capacité à gérer les questions de défense et de sécurité, dit l'ambassade. L'ex-chef de milice, devenu prédicateur évangélique et aujourd'hui âgé de 68 ans, est connu en partie pour une vidéo le montrant en train de savourer une bière pendant que ses hommes torturaient à mort le président Samuel Doe en 1990. Il est aussi accusé de la mort de très nombreux Libériens.
La Centrafrique a notifié au Conseil de sécurité de l'ONU son intention d'accueillir prochainement 600 nouveaux instructeurs russes, en plus des centaines de paramilitaires qui l'aident depuis 5 mois à combattre une rébellion. En décembre, la Russie a dépêché d'urgence des centaines de paramilitaires pour former et soutenir l'armée centrafricaine. Toujours en Centrafrique, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a été lancée jeudi. Un premier lot de 60 000 doses du vaccin AstraZeneca a été fourni par le système COVAX. Le pays est ravagé par la guerre civile et l'un des derniers à débuter sa campagne de vaccination. Plus de 7000 cas positifs et 96 décès ont été enregistrés. La commission électorale éthiopienne a annoncé jeudi que les élections nationales se tiendront le 21 juin. Ce scrutin devait avoir lieu en août 2020, a été repoussé au 5 juin cette année à cause de la pandémie. Ce week-end, la commission électorale a annoncé un nouveau report en raison d'obstacles logistiques. À son arrivée au pouvoir en 2018, le Premier ministre Abiy Ahmed avait promis d'organiser les élections les plus démocratiques que l'Éthiopie ait jamais connues. La campagne pour les élections législatives du 12 juin en Algérie s'est ouverte aujourd'hui. Près de 1500 listes, dont plus de la moitié qui s'affichent comme indépendantes, sont en lice. Environ 1200 autres listes ont été rejetées en vertu d'une nouvelle loi électorale. La campagne électorale prendra fin le 9 juin. Ces élections anticipées auraient dû avoir lieu en 2022 et vont se tenir sur fond de contestation du mouvement Irak. La zone frontalière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta a retrouvé son calme jeudi. Depuis lundi, quelques 8000 migrants ont rejoint Ceuta, profitant des relâchements des contrôles frontaliers côté marocain sur fond de crise diplomatique entre Madrid et Rabat. Madrid a encore haussé le ton jeudi en accusant Rabat d'agression et de chantage.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La réunion de l'Assemblée générale de l'ONU sur la crise au Proche-Orient, à laquelle participent une douzaine de ministres, a été convoquée à la demande du Niger et de l'Algérie pour aborder le conflit entre Israël et le Hamas. Le cabinet de sécurité israélien discute ce soir d'un possible cessez-le-feu. Nathalie Barche.
La poursuite des tirs israéliens et palestiniens est inacceptable, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il a appelé à l'arrêt immédiat des affrontements. Lors d'un entretien téléphonique, la chancelière allemande Angela Merkel et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont dit soutenir les efforts pour un cessez-le-feu rapide. Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, en visite à Tel Aviv, a exprimé la solidarité de l'Allemagne avec l'État hébreu, disant qu'Israël avait le droit de se défendre. C'est le devoir d'Israël de protéger ses civils et c'est ce que nous ferons jusqu'à ce que les tirs cessent, a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi. Le Qatar est au cœur d'intenses tractations. L'émissaire onusien pour le Proche-Orient, Thor Wennesland, est en visite dans l'Émirat pour tenter de rencontrer le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Des pourparlers sont aussi menés par l'Égypte.
L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a estimé jeudi que 7 millions de dollars seraient nécessaires sur 6 mois pour répondre à la crise sanitaire accrue en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, soumise à des bombardements israéliens. Des milliers de Syriens se sont pressés jeudi devant leur ambassade au Liban pour élire leur président. C'est une journée de vote pour les ressortissants vivant à l'étranger, notamment au Koweït, à Moscou et à Amman. La Russie s'est réjouie ce jeudi de signaux positifs dans les relations avec les États-Unis, après notamment l'abandon par Washington de certaines sanctions contre un gazoduc vers l'Europe. Une décision qui inquiète l'Ukraine. Claire Morin-Zubourg.
Les États-Unis ont annoncé hier renoncer à des mesures punitives contre la principale société qui construit Nord Stream 2, qui achemine du gaz russe vers l'Europe en contournant l'Ukraine. Moscou a salué un signal positif à un moment où les relations russo-américaines sont au plus bas, sur fond d'accusations d'ingérence électorale, d'espionnage, de cyberattaques et d'expulsions croisées de diplomates. Les chefs des diplomaties russes et américaines, Sergueï Lavrov et Antony Blinken, se sont rencontrés mercredi à Reykjavik, en Islande, en marge du Conseil de l'Arctique. Le ministre russe a jugé la conversation constructive. Côté américain, on a évoqué une discussion productive et honnête, même s'il n'y a eu aucune percée dans les pourparlers. Washington et Moscou sont en négociation pour l'organisation d'un sommet en juin entre les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine.
Vous Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique, suivez la Minute Éco, signée Claire Morin-Gibault.
Au Togo, la production de coton a chuté de près de moitié cette année, selon la nouvelle société cotonnière du Togo et la fêtière des cotonculteurs, qui se sont réunis à Sokodé les 18 et 19 mai. Les producteurs expliquent cette baisse par les aléas climatiques, une mauvaise qualité des semences et la pandémie. Selon Togo First, le coton rapporte environ 50% des recettes d'exportation agricole, soit en moyenne 50 milliards de francs CFA par an. Au Gabon, les opérateurs économiques de la filière bois ont présenté leurs difficultés au gouvernement, notamment leurs difficultés logistiques pour l'évacuation des grumes, l'état des routes et les barrages croissants qui augmentent les coûts de transport ou encore le non-remboursement des crédits de TVA. Selon le ministère gabonais de l'économie, la production de bois débité a baissé de 2,1% et celle des unités de sillage a régressé de 5,2%. La Société nationale d'électricité du Sénégal a annoncé ce jeudi la mise en service prochaine d'une nouvelle centrale électrique d'une capacité de 120 MW à partir de septembre dans la commune de Malikunda, à Mbourg, dans l'ouest. Ce projet est estimé à 350 millions d'euros, dont 70% est apporté par la SFI, membre du groupe de la Banque mondiale. La Sénélec détient 15% de cette centrale et siégera au sein du conseil d'administration en tant qu'actionnaire.
Et en transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. De nouveau qualifiés pour les quarts de finale de la Basketball Africa League, après les Rwandais du Patriot, les Angolais de Petro du Luanda décrochent leur billet en disposant des Camerounais de FAP sur le fil 66-64. L'équipe des forces armées et police enchaîne ainsi avec une deuxième défaite dans la poule B, après sa sortie manquée de justesse devant les Marocains de l'AS Salé.
Dans le groupe A, les deux qualifiés pour l'écart sont connus. Il s'agit des Patriotes qualifiés depuis hier et des Tunisiens de l'US Monastir qui comptent désormais deux victoires en deux matchs après avoir disposé ce soir des Nigériens de Rivers Hoopers 99-70.
Dès ce soir, on pourrait connaître l'autre qualifié de la poule B à l'issue du match entre les Maliens de l'AS Police et les Marocains de l'AS Salé. En cas de victoire du club marocain, ce dernier sera qualifié pour l'écart. Hier, dans le groupe A, les Malgaches de GNBC se sont inclinés à nouveau dans cette balle 72-78, cette fois-ci face aux Rwandais du Patriot qui enregistrent leur deuxième victoire du rang et donc assurés de disputer les quarts de finale. Dans le groupe C, les Mozambicains du Ferroviaire de Maputo ont décroché leur première victoire dans cette balle en infligeant aux Sénégalais de l'AS Douane leur première défaite 88-74. Selon le coach de l'AS Douane, son équipe a manqué souvent de lucidité.
On n'a pas su défendre comme on l'aurait dû par rapport au premier match. On était trop laxiste, on manquait de concentration, on prenait aussi en attaque trop de petites précipités. On allait à l'imprévu, voire l'impossible, en prenant des décisions immédiates et individuelles. Et ce qui nous a posé énormément de problèmes dès le début du match.
Tabi Gueye, coach de l'AS Douane du Sénégal. Le dernier match de la soirée d'hier entre le Zamalek et le groupement sportif des pétroliers d'Algérie a été reporté conformément au protocole de santé et de sécurité de la Ligue, selon ce que l'on peut lire sur le site web de la Basketball Africa League, sans autre précision. La rencontre sera reprogrammée à une date ultérieure selon la BAL. Ici, en NBA, LeBron James, le sauveur, envoie les Lakers en play-off. Bagassi Koura.
Oui, un panier victorieux de King James à 58 secondes du terme a permis aux Lakers, champions en titre, de vaincre les Warriors 103-100 et de se qualifier pour le premier tour des playoffs NBA où ils défieront Phoenix Golden State qui est passé tout près d'un bel exploit au Staples Center dans le sillage de Stephen Curry éblouissant 37 points. Encore une chance d'atteindre ce stade. Il lui faudra donc battre ce vendredi Memphis qui a éliminé San Antonio 100-96 pour se donner le droit de défier Utah, meilleure équipe de la saison régulière.
Merci Bagassi. Cyclisme avec le Tour du Bénin dominé par les Burkinabés. Salifou Yarbanga, un autre étalon, remporte la quatrième étape courue aujourd'hui entre Boïkon et Lokassa, 97 km. Le Burkina Faso garde son maillot jaune avec Paul Daumont. Demain, la cinquième étape fera l'objet d'un critérium à Porto Novo, 116 km.
C'est tout pour l'actualité sportive. Merci à Kouba. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Burkina Faso, les élèves du secondaire manifestent depuis plusieurs semaines contre des réformes annoncées par le ministère de l'Éducation nationale. Lundi dernier, des élèves ont saccagé l'administration du plus grand lycée du pays. Le président Kaboré a condamné hier ces violences. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Pour les années à venir, l'organisation de l'examen du baccalauréat sera à la charge du ministère de l'Éducation nationale. Ce n'est qu'une simple réforme administrative, selon le ministre de l'Éducation nationale. Mais l'annonce de cette mesure a mis les élèves vent debout. Et depuis des semaines, ils manifestent dans la capitale et dans plusieurs autres villes du pays. Lundi, au lycée Philippe Zenda Kaboré, le plus grand lycée du pays, les choses sont allées loin. Les élèves ont saccagé le bureau du proviseur, détruit son véhicule et mis le secrétariat de l'établissement sens dessus-dessous.
Vraiment, nous n'avons jamais vu un tel niveau de violence s'exercer dans nos établissements.
Alexis Kilem est le proviseur dont le bureau a été saccagé.
Nos établissements qui normalement devaient être un lieu assez paisible, un lieu de bien vivre ensemble. Nous n'avons jamais vu ça du tout. Je déplore vraiment cette situation.
Dans les rues de Ouagadougou, où élèves et policiers jouent au chat et à la souris depuis des semaines, les Burkinabés se disent préoccupés. Mamadou Dao, un citoyen.
L'heure n'est pas de savoir si qui a tort, qui a raison. Cette réforme dont le ministre vise à mettre en application concerne en réalité directement les élèves. Il est tout à fait normal que ces derniers, en tout cas, cherchent à comprendre ce qui va et ce qui ne va pas.
Robert Yameogo, un autre citoyen, n'est pas d'avis.
Il faut que les élèves aussi évitent de faire certaines choses qui vont à l'encontre de la loi. Voilà, l'incivisme, c'est-à-dire brûler quoi que ce soit, brûler les véhicules, brûler sur la voie, c'est des trucs qu'on va réparer et tout ça, ça va jouer sur notre économie.
Dans une situation comme ça, il faut savoir raison garder.
Le président Roch Kaboré, pour la première fois et depuis Paris, a réagi sur la crise scolaire. Il appelle à la retenue et déplore ce qu'il appelle des manipulateurs.
Il n'est pas normal que pour une réforme qui sera engagée déjà en 2022, nous soyons aujourd'hui en train d'arriver à des extrémismes de ce genre. Nous avons tous été des élèves et nous savons que derrière ce genre d'opération, il y a toujours des manipulateurs.
Les analystes pensent que seul le dialogue permettra de mettre fin à la crise. Pas hier, analyse politique.
Au regard donc de l'ampleur du problème, il est évident qu'il va falloir s'asseoir sur une même table pour discuter. Le président du Faso vient de faire un appel donc à l'apaisement. Nous espérons que le ministre en charge de l'éducation puisse échanger directement avec les élèves et les acteurs, qui est notamment les syndicats et les parents d'élèves, pour trouver donc une voie de sortie de cette crise qui va crescendo.
Plusieurs établissements scolaires de Ouagadougou ont dû suspendre leur programme. D'autres devraient entamer les examens de fin d'année qui restent bloqués. Le ministère de l'Éducation nationale annonce des assises nationales sur l'éducation dans les prochains mois. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Lors de ses voyages en Afrique, Keith White, un diplômé de Howard University, a rencontré de nombreuses personnes qui ont exprimé le souhait de se connecter avec leur homologue américain. Il a donc décidé de créer Afro Animation pour faire la connexion entre l'Afrique et les États-Unis. La première édition de ce sommet virtuel s'est terminée aujourd'hui le 20 mai. Arzuma Compaoré s'est entretenu avec Keith White.
Au début de cette année, je suis tombé sur de nombreuses illustrations créatives en ligne, principalement réalisées par les créateurs noirs et bruns. J'étais vraiment surpris par le niveau de talent et de créativité. Dans ma carrière, qui remonte à 20 ans, je n'ai jamais vraiment eu de raison de m'intéresser à l'animation pour enfants ou l'animation en général. J'ai juste pensé que c'était un média pour les enfants. Mais j'ai été très impressionné. Et comme nous étions situation en pleine pandémie et que tout le monde faisait une conférence virtuelle, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Je suis spécialisé dans la création de plateformes numériques, médiatiques et technologiques. J'ai donc contacté quelques studios de cinéma aux États-Unis et leur ai demandé s'ils soutiendraient l'organisation d'une telle conférence. Disney a immédiatement répondu par l'affirmative. Sony Animation a répondu ainsi que le président de Marvel. Et donc les choses se sont confirmées pour moi et c'est tout cela qui m'a inspiré à faire Afro Animation.
Dites-nous un peu plus sur le sommet virtuel lui-même. Comment cela va-t-il se dérouler?
Nous avons plus de 1500 animateurs, créateurs, illustrateurs et artistes du monde entier venant d'Afrique, d'Europe, des Caraïbes, du Brésil, d'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Donc, dans nos panels, nous avons plus de 60 intervenants. Nous avons des sujets étonnants qui couvrent non seulement l'inclusion et la diversité, mais aussi des conseils et des compétences qui aideront les animateurs et les ressources pour ceux qui veulent entrer dans l'industrie de l'animation pour faire avancer leur carrière. Nous abordons également de nombreux sujets en rapport avec le continent, comment tirer parti de l'animation en Afrique. Notre objectif est donc de réunir des animateurs du monde entier, noirs et bruns, multiculturels, pour qu'ils apprennent à se connaître. Il y a un énorme fossé entre les animateurs et les créateurs de couleurs qui ne se connaissent pas. Nous espérons donc que cette conférence y contribuera d'une manière ou d'une autre. Connecter les créateurs, leur permettre de se mettre en réseau, de s'associer et de collaborer. Les studios de cinéma et les chaînes de télévision sont très intéressés par le recrutement. Il va donc y avoir beaucoup de recruteurs de l'industrie à la recherche de talents étonnants. Et donc, si nous pouvons contribuer à augmenter le nombre de talents créatifs et diversifiés dans le secteur, nous pensons que tout le monde y gagnera.
Keith White, fondateur de Afro Animation.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Covid a fait connaître le seul mammifère à écailles soupçonné d'avoir joué un rôle dans la transmission du coronavirus à l'homme. Le pangolin est l'animal le plus braconné au monde. Cet animal préhistorique se roule en boule à la moindre menace et pourrait disparaître d'ici 20 ans. Un pangolin est tué toutes les 5 minutes. Notre correspondante Valérie Hirsch s'est rendue dans la réserve de Pinda au KwaZulu-Natal, dans l'est de l'Afrique du Sud, où des pangolins saisis par la police sont réintroduits dans la nature. Son reportage.
Cette femelle a été trouvée dans le coffre d'une voiture à Pretoria et elle allait être vendue dans le cadre du trafic illégal de faune sauvage. En novembre dernier, elle est arrivée à Pinda et en 3 jours, elle s'est acclimatée à la réserve.
Charlie DeVos fait partie de l'équipe qui a réintroduit 14 pangolins saisis par la police dans la réserve de Pinda au KwaZulu-Natal. Le commerce international des pangolins est interdit depuis 2017, mais ils sont victimes d'un trafic de plus en plus important. Ceux qui sont sauvés arrivent souvent affaiblis et traumatisés. La jeune africaine pèse la femelle, elle fait plus de 9 kilos.
Pour nous, la pesée est souvent le seul indicateur pour savoir si le pangolin est en bonne santé. Au départ, quand elle est arrivée ici, elle pesait 6,5 kilos. Elle a pris environ 3 kilos en 6 mois depuis qu'elle est avec nous. Je la dépose par terre et la relâche car elle va commencer à être stressée.
D'habitude, peut survivre quand on les ramène dans la nature, mais ici, ils sont suivis de près. Et sur 14 pangolins, seulement 2 sont décédés, dont un dévoré par un crocodile. Un bébé est même né en décembre, le premier depuis 40 ans au KwaZulu-Natal, où les pangolins étaient chassés pour faire des gris-gris, comme l'explique Sibongi Seni Sitole, un membre de l'équipe.
Les guérisseurs traditionnels les chassent et les tuent pour les utiliser.
Depuis une décennie, les pangolins sont ces victimes de trafiquants qui les exportent vers l'Asie du Sud-Est. Leur viande est très appréciée au Vietnam et les écailles sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. Les saisies d'écailles de pangolins africains sont ainsi passées de 2 tonnes en 2013 à près de 90 en 2019. Leurs écailles ne contiennent que de la kératine, comme les cornes de rhino ou nos ongles, et pourtant le prix de contrebande a explosé. Richard Chelin est chercheur à l'Institut pour les études de sécurité à Pretoria.
En 2019, on pouvait acheter un pangolin sur le marché nori pour 90 euros. Maintenant, il faut payer environ 120 000 euros. Les trafiquants ont réalisé qu'ils pourraient faire beaucoup d'argent. Même s'ils sont sur la liste des espèces protégées, ils sont moins connus que les rhinocéros, surtout au niveau des stratégies. Même si la stratégie de la communauté de développement de l'Afrique australe pour lutter contre le trafic de faune sauvage parle peu du pangolin. Les grandes espèces ont la priorité, le rhino, l'éléphant, le lion.
Le trafic international a toutefois diminué à cause du confinement, mais pas le braconnage, comme l'explique le professeur Richard Janssen du groupe de travail sur le pangolin africain, basé à Pretoria.
On a vu une forte augmentation du braconnage venant du Zimbabwe et Mozambique parce que les gens cherchent à tout prix à survivre.
Sans une bonne coordination internationale des services de police et de douane, il sera impossible de venir à bout des réseaux de criminels. Valérie Hirsch à Johannesburg pour VOA Afrique.
Au Gabon, le cyclisme n'est pas la discipline sportive la mieux lotie. À l'absence de structure de formation des coureurs, s'ajoute le manque de moyens et l'irrégularité des compétitions. Le pays s'est pourtant doté d'une course cycliste internationale baptisée Amissabongo Ondimba. À cause de la pandémie, le gouvernement a annulé la 16e édition. Le point à Brazzaville avec notre correspondant Ismaël Obiang Mzé.
La seule compétition organisée par le Gabon est la Tropicale Amissabongo. Mais elle ne suffit pas encore à structurer une équipe. Il n'y a pas une politique claire de la petite reine. Abraham Olano, entraîneur de l'équipe cycliste du Gabon.
Je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'objectif du ministère ou qu'est-ce que c'est l'objectif de la fédération. Oui. L'objectif de les coachs, c'est que d'ici 10-20 ans, quand avec que les coachs Yann n'est pas ici, quelqu'un va dire, ici, sont venus en espagnol. Abraham Olano a fait un projet de sport et regardez, les coups d'affaires, un travail de futur.
Ce travail pour le futur, initié depuis 2016 par le technicien espagnol, est visiblement parsemé d'embûches. Freddy Koula est un chroniqueur sportif habitué de la course à Amissabongo.
Il a fait une sélection quand il est venu en 2015. Enfin, il y avait justement une ou deux compétitions qui avaient été organisées en interne. Il a lui-même fait une détection. Il a pris un lot de 6-7 coureurs. Ils sont partis en Espagne. Ils ont travaillé 3 mois, 4 mois. Ils sont venus dans une tropicale 2016 qui a été correcte. Ensuite, tout s'est liquéfié. Il n'y a pas eu de compétition nationale. Parce que c'est comme ça que ça marche depuis quelques années chez la tropicale. Ces mecs-là, ils font la tropicale en janvier. On les abandonne pendant 11 mois. Et après le 12e mois, on les appelle en disant il y a la tropicale, pensez au pays, vous êtes des patriotes.
Godefroy Ganamba est justement le capitaine de l'équipe cycliste des Panthères du Gabon. Il confirme ces faits.
C'est déplorable que la tropicale est organisée au Gabon et il n'y a pas les moyens pour pouvoir mettre l'équipe gabonaise dans les meilleures conditions. Alors que les équipes qu'on invite sont en plein dans le travail. Vous convenez avec moi que l'équipe gabonaise n'a pas eu de compétition cette année.
15 ans après sa création, la Tropicale Amissabongo n'a pas encore été remportée par un Gabonais. À peine croyable pour une bonne partie de l'opinion. Clémentine Minga est une spectatrice des courses cyclistes.
Je pense que les Gabonais doivent rattraper les autres et se mettre à niveau, avoir plus d'entraînement pour permettre de rejoindre les autres, en fait, les internationaux.
Armel Djo Bougou, journaliste.
Et pour faire du cyclisme, il faut de l'argent. Il faut s'investir. Le vélo, à lui seul, il coûte les yeux de la tête. Ce n'est pas un sport comme le football. À la limite, c'est vrai que bon, lorsqu'on monte une équipe de football, ça demande d'autres charges. Mais un vélo, il faut l'entretenir. Il faut avoir au moins deux vélos, un vélo d'entraînement, un vélo de compétition. Il faut avoir des écoles. Il faut pouvoir nourrir, sportivement parlant, ces derniers, donc ces athlètes-là.
Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Mais c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Magnakiza était à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute.